La science CQFD, Natacha Triou.
En décembre dernier, les physiciens américains ont fait une annonce majeure en matière de fusion nucléaire. Serions-nous en train de toucher du doigt une énergie propre pour demain ? Des décennies que l'on cherche à reproduire en laboratoire la fusion nucléaire, ce procédé qui se produit au cœur des étoiles comme notre Soleil. Maîtriser les conditions favorables à la libération de l'énergie de fusion nous permettrait, en théorie, de bénéficier d'une énergie quasi infinie, quasi propre. Une aubaine face à l'impératif de sortie des énergies fossiles. Mais représente-t-elle vraiment la solution énergétique du futur ? Et que signifient les derniers résultats obtenus ? Fusion nucléaire, 1, 2, 3, Soleil. Sébastien Lepape, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses de l'école polytechnique à Palaiseau et vous avez participé aux expériences du NIF de 2009 à 2019. Avec nous également Alain Bécoulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien et spécialiste de la fusion nucléaire et vous êtes responsable du domaine ingénierie du projet ITER depuis 2020. Merci à vous deux d'être avec nous en direct des studios de France Culture et merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur notre fil @sciencecqfd où nous postons tout au long de cette heure les sources qui ont nourri cette discussion. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de fusion nucléaire, des voies de recherche possibles pour l'atteindre et de concrètement où nous en sommes dans cette quête. Le 13 décembre dernier, le NIF, le National Ignition Facility en Californie, a annoncé une avancée majeure, une percée qualifiée d'historique.
L'information avait fuité depuis quelques heures dans la presse, mais la ministre américaine de l'énergie n'a pas boudé son plaisir en la confirmant officiellement.
Last week, at the Lawrence Livermore National
Laboratory. La semaine dernière, au laboratoire national Livermore de Californie, les scientifiques ont réussi une fusion nucléaire. Et le résultat de cette expérience a produit plus d'énergie qu'elle n'en a dépensé pour y aboutir. C'est l'une des prouesses scientifiques les plus impressionnantes du XXIe siècle.
Cette découverte, les scientifiques nucléaires du monde entier en rêvaient depuis 60 ans, car à terme, elle pourrait alimenter l'humanité avec une énergie décarbonée et sans limite. La fusion nucléaire réunit deux atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. C'est cette réaction qui fait vivre les étoiles, comme notre Soleil, et elle produit au passage une immense quantité d'énergie. La semaine dernière, les scientifiques américains ont donc réussi à reproduire sur Terre les conditions de chaleur et de pression extrêmes nécessaires à cette fusion.
Pendant cette expérience, 192 lasers ultra-puissants ont été pointés vers une toute petite cible de la taille d'un grain de poivre. Et ils ont chauffé les atomes à une température de plus de 3 millions de degrés Celsius, dans les mêmes conditions qu'une étoile.
And briefly simulating the conditions of a star.
Voilà notre archive du jour. Sébastien Lepape, vous aussi, vous en rêviez depuis 60 ans de ces résultats.
Tout à fait, oui. Moi, un peu moins, parce que je suis un peu plus jeune. Mais disons qu'en arrivant au NIF en 2009, c'était évidemment le rêve de tout physicien qui commençait à travailler sur ce laser. C'est d'arriver à l'ignition. On pensait y arriver un peu plus tôt que 13 ans plus tard. Mais néanmoins, on y est arrivé.
Alain Bécoulet, une réaction vous aussi à cette annonce ?
Ah ben, il faut certainement pas bouder son plaisir. C'est effectivement un résultat majeur, un résultat qui, comme M. Lepape l'a dit, est le fruit d'une accumulation d'expériences, d'une accumulation de savoir-faire, de tests, de développement technologique et scientifique importante. Et c'est effectivement la première fois où sur Terre, on a réussi à prouver qu'on arrivait à produire plus d'énergie par les réactions de fusion qu'on en injectait pour les obtenir. C'est un événement majeur, effectivement.
Oui, voilà, ce qu'il faut préciser, et ce qui est frappant dans cette annonce, c'est que nous avons atteint, et même dépassé, donc pour la première fois, le break-even, le seuil d'ignition. Qu'est-ce que cela signifie, ce seuil d'ignition d'une réaction nucléaire, Alain Bécoulet, plus précisément ?
Donc, une réaction nucléaire de fusion, c'est une réaction qui va finir par amplifier une énergie injectée dans un milieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre des atomes ou des noyaux, comme vous l'avez dit, d'hydrogène ou des isotopes de l'hydrogène, les chauffer sous une forte température, mais aussi densité, donc sous une forte pression. Et à partir d'un moment, les réactions de fusion entrent en jeu. Les noyaux des atomes se rapprochent suffisamment les uns des autres pour pouvoir enclencher ces réactions de fusion et se mettent à générer de l'énergie. Et donc, on est dans un système d'amplification. Vous apportez de l'énergie pour arriver à ces conditions de très forte température en particulier, et puis vous recevez de l'énergie en retour. Et donc, l'idée est évidemment d'aller vers des installations, vers des réacteurs où cette amplification ne sera pas de 1 ou 1,5, elle sera de 10, de 20, de 30, de 100. Elle sera significativement au-dessus de 1 pour pouvoir collecter cette énergie générée et puis la transformer en électricité, en chaleur, en ce que vous voulez.
Oui, Sébastien Lepape, sur ce seuil d'ignition, avant ça, aucune expérience n'avait réussi à obtenir un gain supérieur à 1.
C'est ça. Donc l'histoire commence en 2009. Et en 2009, on générait quelques kilojoules de fusion. Donc, alors qu'on mettait quelque chose comme 1 mégajoule, puis 2 mégajoules de laser. Et au fur et à mesure de l'amélioration de notre connaissance et de la technologie des cibles qu'on utilisait pour ces expériences, on a réussi à augmenter l'énergie de fusion produite par ces énergies pour finalement arriver à, initialement, il y a un an et demi, à 1,3 mégajoules. Ça, c'était une grosse étape, c'est ce qu'on appelle le plasma qui brûle. Donc ça, c'était une étape fondamentale dans la connaissance de ces milieux extrêmes, parce que c'était la première fois qu'on avait un plasma qui brûle, c'est-à-dire qu'on générait plus d'énergie qu'on en perdait par des phénomènes de conductivité thermique ou de radiation. Et donc ça, c'était 1,3 mégajoules. Et finalement, à force d'améliorer le système, que ça soit laser ou de cible, on est arrivé à compenser certaines pertes qu'on avait encore pour générer 1,5 fois plus d'énergie que l'énergie laser qu'on utilisait pour chauffer, pour initier ces réactions de fusion.
On va décortiquer ensemble tous ces procédés dans cette quête-là. Avant de faire le point et de prolonger sur ces dernières avancées, il faut qu'on précise ensemble certaines notions. Alain Bécoulet, quelle est la différence entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire ?
Alors, fusion et fission. Donc, au niveau du noyau, vous avez deux façons de récupérer l'énergie à partir de réactions nucléaires. Celle qu'on connaît aujourd'hui depuis plusieurs décennies et qui fonctionne dans nos réacteurs nucléaires actuels, ce sont les réactions de fission. C'est-à-dire, ce sont des réactions qui on va casser des très gros noyaux, uranium par exemple ou plutonium, en les bombardant avec des neutrons. Et ces noyaux, bombardés par ces neutrons, vont se casser en noyaux plus petits, en parties plus petites. Et dans cette rupture, on va récupérer de l'énergie. Ça, c'est la fission nucléaire qu'on connaît et qu'on maîtrise depuis maintenant plusieurs décennies. La fusion, c'est l'inverse d'une certaine façon. Au lieu d'essayer d'aller casser des très gros noyaux, il y a une autre façon de récupérer de l'énergie nucléaire, c'est en essayant de coller entre eux de tout petits noyaux, en l'occurrence des noyaux d'hydrogène, ou vraiment tout au début du tableau périodique de Mendeleïev, aller chercher des tout petits noyaux, les envoyer les uns contre les autres d'une façon diverse et variée, on va y revenir. Et puis, si effectivement, dans ces collisions, on arrive à être suffisamment puissant, suffisamment rapide dans ces collisions, ces petits noyaux vont se coller entre eux, fabriquer un noyau un petit peu plus gros, et dans ce processus-là, également dégager de l'énergie.
Sébastien Lepape, pour compléter ce que vient de dire Alain Bécoulet.
Pardon. Donc la clé, c'est dans le cadre de la fusion par confinement inertiel, c'est ces deux particules qu'on génère par la réaction de fusion, qui sont un neutron qui a l'énergie sous forme d'énergie cinétique et une particule d'hélium. Et c'est cette particule d'hélium qui va permettre d'amplifier les réactions de fusion en déposant son énergie dans le cœur assemblé qui est très dense et par multiples collisions, il va y avoir transfert d'une énergie cinétique en chaleur. Et c'est cet excès d'énergie sous forme de température qui va générer le flux de neutrons et amplifier les réactions de fusion.
Alors quels seraient les avantages de la fusion par rapport à la fission ?
Déjà on utilise des isotopes de l'hydrogène. ce qui est a priori, qu'on peut trouver a priori partout, même si le tritium, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'éléments, vu qu'on génère une particule alpha et un neutron, donc un atome d'hélium et un neutron, il n'y a pas de particules qui ont des demi-vies radioactives très longues. C'est pas dangereux parce que c'est tellement difficile à faire que si on arrête, que ce soit le champ magnétique pour un tokamak ou le laser pour la fusion par confinement inertiel, la réaction s'arrête. Donc il n'y a pas d'emballement.
Il n'y a pas d'accident possible comme Tchernobyl ou Fukushima.
C'est ça, ça ne peut pas s'emballer par défaut. Donc sont les gros avantages de la fusion par rapport à la fission.
Alain Bécoulet ?
Ben c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des réactions intrinsèquement sûres. Ce ne sont pas des réactions en chaîne, donc ce sont des réactions intrinsèquement sûres. Ce qu'a dit Monsieur le Pape est vrai. Si on ne les entretient pas, elles s'arrêtent. Donc on a un contrôle absolu sur ces réactions-là. Elles ne génèrent pas de déchets. Ces réactions-là elles-mêmes ne génèrent pas de déchets radioactifs à longue vie, à haute activité. Donc on se débarrasse de toute cette problématique de fin de cycle de la fission. Et puis effectivement, elles font appel à des éléments qui sont abondants sur Terre ou qui sont facilement accessibles. Donc, a priori, on peut imaginer avoir des filières de production d'énergie qui sont extrêmement durables. Donc, il faut quand même le rappeler, c'est vrai aussi pour la fission, mais c'est vrai pour la fusion, ce sont des réactions qui ne génèrent pas de gaz à effet de serre, etc. Donc, ce sont des énergies totalement décarbonées.
Oui, avec très faible d'émissions de CO2, en effet, pour cette technologie. Mais pour revenir un peu sur ce procédé, on essaye de reproduire la réaction physique qui se passe au cœur des étoiles, Alain Bécoulet. Quelles sont les conditions pour provoquer la fusion nucléaire? C'est un dispositif de fusion qui nécessite principalement deux conditions extrêmes.
Alors effectivement, toute cette jolie chose qu'on met en vitrine, qu'on vient de définir, elle a une difficulté intrinsèque. Il faut arriver à fabriquer un petit morceau de soleil sur Terre. Donc il faut arriver à recréer sur Terre, dans des volumes raisonnables, des conditions de densité et de température qui sont extrêmement importantes. Alors c'est là qu'on commence à voir se séparer deux façons, deux filières, deux façons dont l'homme va essayer de reproduire ses réactions de fusion. Soit on fait vraiment un mini soleil, c'est-à-dire qu'on va comprimer, c'est la fusion par confinement inertiel, une petite bille de mélange d'hydrogène de façon extrêmement forte, extrêmement intense, et on va créer des conditions de densité en particulier qui ressemblent, voire qui peuvent même dépasser les conditions de densité et de température qu'on va trouver dans une étoile. Soit la fusion par confinement magnétique part sur une autre voie. Au lieu d'avoir comme ça une implosion impulsionnelle, on va essayer de créer un milieu, une bouteille dans lequel on va fabriquer un plasma à très haute température, et puis on va tout simplement essayer de le maintenir pour toujours. Donc c'est dans le cas de la fusion magnétique, il faut même des conditions de température un peu plus élevées, voire plus élevées. On va parler de 100 à 150 millions de degrés, parce qu'on va être à des densités beaucoup plus faibles, et c'est le produit des deux qui compte. Donc il va falloir créer un endroit, une boîte, une bouteille dans laquelle on peut contenir un plasma de 150 millions de degrés.
Oui, c'est ça. C'est que pour obtenir une fusion, on cherche un confinement des noyaux et des températures très élevées, Sébastien Lepape.
Voilà, c'est ça. Parce que les sections efficaces de fusion du deutérium-tritium, en fait, donc la probabilité qu'une réaction de fusion se passe nécessite des températures très élevées. Donc on part de typiquement 30 millions de degrés Kelvin et on arrive jusqu'à 100 millions de degrés Kelvin lorsqu'on arrive à avoir un surplus d'énergie de température grâce aux particules alpha. Et en plus de ça, dans le cadre de la fusion par confinement inertiel, il faut une densité très 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 élevée parce que les échelles temporelles sur lesquelles se passe la fusion sont extrêmement brèves. On parle pour la fusion par confinement inertiel de picosecondes, donc 10-12 secondes, alors que dans le cadre de la fusion par confinement magnétique, on parle de secondes. Donc pour contrebalancer cet effet temporel, on a besoin d'une grande densité pour générer suffisamment de neutrons par impulsion neutronique.
Alors Bécoulet, pour faire un peu de physique fondamentale, on cherche à fusionner les noyaux. Pourquoi est-il si difficile de se faire rapprocher de noyaux ?
Alors c'est assez simple, parce que les atomes sont tous constitués donc d'un cortège électronique, donc d'électrons qui sont chargés négativement, et d'un noyau au cœur de cette installation atomique et qui est chargé positivement. Et donc vous imaginez bien que si vous voulez faire se rencontrer deux noyaux, vous voulez faire se rencontrer deux particules qui ont la même charge électrique, et donc ces deux particules, dès qu'elles s'approchent, elles essayent de se repousser électriquement. Et donc, il n'y a que si elles se rapprochent extrêmement près, que les réactions nucléaires vont rentrer en ligne de compte. Donc, il faut les accélérer l'une contre l'autre à des très très grandes vitesses, à des très grandes températures, pour que elles puissent se rapprocher suffisamment fortement pour dépasser cette répulsion coulombienne et faire entrer en ligne de compte les réactions nucléaires. Donc c'est une question de vitesse, c'est une question de rapidité et donc de température, puisque qui dit vitesse dit température dans un gaz, tout simplement.
Sébastien Lepape.
Oui, non, tout à fait. C'est comme essayer de mettre ensemble les deux pôles positifs d'un aimant. Ils vont avoir tendance à se répulser et pas à venir les uns contre l'autre. Donc si on donne à chacun des deux pôles positifs des aimants suffisamment de vitesse pour qu'ils arrivent à se mettre ensemble, la fusion va avoir lieu.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h16 sur France Culture avec Sébastien Lepape et Alain Bécoulet. Nous parlons de fusion nucléaire. Nous venons de décrire les mécanismes physiques à l'intérieur des étoiles que nous cherchons donc à reproduire en laboratoire. Alors le gros de l'argent public et privé va aujourd'hui dans la fusion magnétique. Et on peut un peu préciser en quoi plus particulièrement ça consiste, Alain Bécoulet. On l'a un petit peu défini en première partie d'émission, mais on peut un peu plus rentrer dans le détail maintenant.
Voilà, on l'a un petit peu dit. Donc traditionnellement, en fait, les recherches pour essayer de transformer ces réactions de fusion en une source d'énergie ont été suivies, effectivement, en tout cas dans le domaine public, beaucoup plus massivement par la filière magnétique. Donc parce que l'idée était de dire, si j'arrive à fabriquer un milieu comme ça qui fabrique des réactions de fusion et qu'en plus il est stationnaire, il reste là tout le temps, bah, naturellement, j'ai l'impression que je vais pouvoir beaucoup mieux le transformer en une source d'énergie. Donc, ça a commencé dans la fin des années 50, début des années 60, avec la déclassification de ces recherches. Et les laboratoires nationaux et puis les grandes structures comme l'Europe avec Euratom, etc., se sont mis à chercher ensemble la meilleure bouteille magnétique, la fameuse meilleure configuration magnétique qu'on appelle aujourd'hui un tokamak. On pourra rentrer en détail si vous le voulez. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis au point cette meilleure structure magnétique, eh bien, on l'a étudiée, comment elle se comporte en fonction du champ magnétique qu'on met, du courant plasma, parce que le plasma est parcouru par un courant, en fonction de la densité, etc. etc. Et donc, il y a eu des recherches coordonnées au niveau mondial, mais avec des installations de plus en plus complexes, de plus en plus technologiquement développées, de plus en plus stationnaires, avec des champs magnétiques installés pour toujours à travers des aimants supraconducteurs, etc. etc. pour en arriver à la fin des années 90 à un consensus international suffisant pour dire on a toutes les briques, on a la physique et les briques technologiques pour imaginer construire le premier réacteur prototype qui nous fournira à peu près 500 mégawatts de fusion à partir de 50 mégawatts injectés, et ce, sur des centaines de secondes, sur des minutes, sur des dizaines de minutes. C'est le fameux projet ITER qui est en cours de construction aujourd'hui. C'est le fruit de toutes ces recherches coordonnées depuis plus de 50 ans, au moment où on l'a décidé.
Et voilà ITER qui cherche à démontrer la faisabilité d'une fusion nucléaire. C'est un projet scientifique et industriel qui rassemble l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis, et qui est donc actuellement en cours de construction à Quai d'Arache. Sébastien Lepape, comment ça marche?
Comment ça marche?
quelle est la stratégie d'ITER, pour nous décrire un peu justement le fonctionnement de ce tokamak?
Oh, monsieur Bécoulet.
Oui, aussi.
Nettement
je vais circuler la parole entre vous deux.
Plus à même de décrire ITER.
Ou Alain Bécoulet, oui. pour continuer avec vous.
Oui, alors c'est vrai que c'est quand même tellement spécialisé qu'il arrive un moment où c'est difficile à s'extraire de ce qu'on fait soi-même précisément. Donc comment ça marche? Eh bien, c'est en fait donc une grande chambre torique, une chambre qui va faire 1000 mètres cubes, donc c'est un gros donut, une chambre dans laquelle on fait un vide poussé, dans lequel on va mettre ce mélange d'hydrogène, en fait de deutérium et de tritium. Et puis cette chambre, elle entoure en fait un champ magnétique magnétiques. Hein, ce sont essentiellement des aimants qui sont installés autour de cette chambre. Et à partir du moment où on va faire, avec un claquage électrique, on va faire claquer le gaz qui est à l'intérieur et commencer à fabriquer un plasma de basse température, eh bien, on va ensuite l'entretenir, on va le chauffer. Et ce plasma va monter en température, le champ magnétique assurant l'isolation thermique entre le plasma, 150 millions de degrés, et son environnement et cette boîte torique autour. Donc ça prend une petite minute, le temps que tout monte en puissance et que la température monte et le régime s'installe. Et à partir de là, on enclenche des réactions de fusion qui ensuite, finalement, auto-entretiennent le milieu, sa température et donc la création d'énergie. ITER vise une amplification, je vous l'ai dit, d'un facteur 10, c'est une démonstration, c'est-à-dire que le plasma sera chauffé avec 50 millions de watts et générera 500 millions de watts de fusion.
Et pour le reportage du jour, grâce à la magie de la radio, on va vous retrouver et vous suivre, Alain Bécoulet, sur le site de ce projet ITER. Avec vous, Antoine Beauchamp, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous avez enfilé un casque de sécurité, vous avez eu la chance de visiter ce site.
Un beau casque fluo et je dois dire que ce site, il est vraiment très impressionnant. Je me suis donc rendu il y a peu de jours à Saint-Paul-lès-Durance, dans le sud de la France, pour visiter ce site où se construit ce que l'on présente souvent comme un équivalent en termes d'enjeux stratégiques et de déficits scientifique du programme Apollo. À vos côtés, donc, Alain Bécoulet, j'ai visité le gigantesque hall d'assemblage du tokamak ITER, où trônent des éléments de plusieurs dizaines de mètres de haut et de plusieurs centaines de tonnes. Vous nous expliquez comment se déroule ce chantier et ce qu'il faudra mettre en place pour établir la preuve de concept du tokamak, qui, on le rappelle, visera dans un premier temps à prouver la faisabilité du procédé.
Voilà, donc là vous êtes dans le hall d'assemblage de la machine ITER, c'est-à-dire juste finalement derrière l'endroit où la machine est en train d'être construite. Et ça sert de hall de pré-assemblage. Les éléments arrivent de droite et de gauche de la part de tous nos membres, des 7 membres ITER. Et puis ces éléments sont ensuite pré-assemblés les uns avec les autres jusqu'à former des unités telles qu'ensuite on les amène dans le trou, dans l'endroit où on construit ITER, pour être positionnés, soudés, etc., etc.
C'est votre lieu de travail, donc pour vous, ça vous paraît peut-être pas si impressionnant que ça. On peut donner une idée des dimensions qui nous entourent parce que c'est assez colossal.
Alors, le bâtiment d'assemblage lui-même, il doit faire une bonne centaine, 150 mètres de long sur 60-70 mètres de large à peu près, c'est à peu près cette taille. Et aussi une soixantaine de mètres de haut parce que il faut qu'on puisse promener des éléments qui font entre 15-20 mètres, les passer au-dessus du mur d'enceinte et puis redescendre dans l'endroit où on met la machine. Donc effectivement, c'est un hall d'assemblage dans lequel on peut assembler probablement pas loin d'un Airbus A380 ou quelque chose comme ça, oui.
Combien de pièces ça va requérir de construire ITER ?
Le chiffre qui est donné, c'est qu'il y a à peu près un peu plus d'un million de pièces. Donc c'est un puzzle 3D à 1 million de pièces. Donc certaines des pièces peuvent être aussi lourdes que plusieurs centaines de tonnes et mesurer plusieurs dizaines de mètres. Hein.
Donc, c'est le cas de celle qui est à notre
gauche. C'est le cas de celle que vous avez devant vous ici, qui est effectivement un des morceaux de ce qu'on appelle le secteur d'enceinte, un des secteurs de l'enceinte. L'enceinte, c'est un tore, donc c'est un immense donut, je vous dis, d'à peu près une vingtaine de mètres de haut et puis, 20-30 mètres de diamètre à peu près. Et ce donut est coupé en 9 morceaux. Et ces 9 morceaux sont progressivement assemblés avec leurs bobines, sont des champs magnétiques, donc il y a des bobines, etc. On les préassemble ici. Et puis un par un après l'autre, on va les amener dans le trou et puis les souder les uns aux autres pour finir par fermer ce donut complètement.
Cette question du volume aussi, elle n'est pas là que pour impressionner. Ça a une fonction importante dans le mode de fonctionnement du tokamak et sa stabilité, la stabilité du plasma. Alors pourquoi ?
Le volume compte. Pourquoi le volume compte ? Si vous vous rendez compte qu'on essaye de faire finalement un petit morceau de soleil sur Terre, vous imaginez très vite que la nature elle-même a eu besoin d'un volume énorme pour pouvoir y arriver. C'est pas les mêmes processus, et on va peut-être en parler dans cette émission, on est plutôt sur des processus d'effondrement gravitationnel dans le cas de l'étoile. Mais la nature a besoin de la taille de notre soleil, en gros. Donc on est obligé d'amener ça sur Terre à un volume normal. Donc ça, c'est la première explication. Il y a quand même une taille qui compte. La deuxième, elle est un peu plus compliquée à expliquer peut-être, c'est qu'on essaye d'isoler donc un milieu à très très haute température, une centaine de millions de degrés, du reste de son environnement. 100 millions de degrés, vous comprenez bien que ça ne peut pas toucher les parois, ça peut pas, c'est pas contenu dans quelque chose de matériel. Donc si vous imaginez que plus l'environnement matériel est proche de ce milieu-là, plus il est en interaction et finalement plus il est pollué par ce milieu-là, vous vous rendez très vite compte que le confinement, la qualité de ce qu'on peut faire et de finalement des températures et pressions qu'on peut obtenir à l'intérieur de ces milieux-là, mais on a besoin un peu de prendre de place, on a besoin de mettre les bords un peu loin du centre. Voilà. Alors évidemment, autour, on est quand même bien obligé de mettre quelque chose de matériel, hein, parce qu'en plus, il faut, ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que ce soit extrêmement pur, il faut qu'il n'y ait que du deutérium, que du tritium. Je ne veux pas d'air, je ne veux pas de polluants là au milieu, donc je veux quelque chose de très précis. Je veux un vide extrêmement poussé à l'intérieur duquel je vais mettre exactement le mélange que je veux et puis l'amener à température.
On va déambuler dans ce grand hall qui fait un terrain de foot et demi en termes de longueur. On a cet élément-là, justement, qu'on décrivait tout à l'heure.
Voilà, donc vous voyez très bien ici le moment où on a un module de l'enceinte qui est d'ailleurs habillé par des panneaux qu'on appelle des écrans thermiques qui permettent d'isoler thermiquement cette enceinte, des bobines qui sont à l'extérieur, etc., etc. Et vous voyez, sur les deux ciseaux extérieurs, deux bobines toroïdales. Il y a 9 éléments comme ça et 18 bobines toroïdales. Et en fait, le préassemblage de ces éléments-là consiste à un moment donné à fermer les deux ciseaux sur le secteur d'enceinte, à les solidariser. En bobine plus en secteur d'enceinte plus écran thermique forme ensuite un module qui part et qui va dans le pit, dans l'endroit où on assemble la machine, on le verra tout à l'heure. Il y en a déjà un dedans et puis on doit répéter ça 9 fois. Ça prend entre 6 mois et 1 an rien que pour faire cette opération-là. Je ne parle pas de la fabrication des objets, je parle de la fabrication, le préassemblage d'un objet comme ça.
On arrive dans
une
zone.
On va passer les différentes barrières, on va dire, de poussière, etc., pour arriver à l'intérieur, dans le fameux pit, donc à l'endroit où on assemble ultimement le tokamak, où le tokamak sera à la fin. Donc en fait, le tokamak, c'est un donut dont on a parlé, et puis avec énormément de fenêtres tout autour, pour amener des services, des systèmes de chauffage, des diagnostics, etc. Et là, vous êtes dans une des amenées qui sera un jour, alors je ne sais pas laquelle c'est celle-là, mais qui sera un jour remplie par exemple, un système de chauffage. Et donc, vous voyez le premier secteur, tel qu'il a été installé en mai 2020, qui est soutenu par une colonne centrale. C'est elle qui sera à la fin enlevée. On mettra le solénoïde central à la place. Et vous voyez qu'il attend ses petits camarades pour pouvoir être progressivement assemblés. Puis, en fait, donc, tous ces éléments-là devront être soudés sur une double couche soudée, de façon à ce que l'ensemble puisse faire vraiment une enceinte à vide, avec toutes les caractéristiques d'un tokamak.
On est là à un endroit qui sera évidemment inaccessible.
On vient de passer le fameux cryostat, c'est-à-dire vous venez de passer l'intérieur, ça c'est le cryostat.
Donc le cryostat, c'est ce qui va permettre...
Donc c'est la boîte qu'il y a autour, qui permet que à l'intérieur, là où je suis ici, tout est à température très 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 basse, sauf le plasma qui est à 150 millions de degrés. Les bobines sont à moins 269 degrés. Et là où nous nous trouvons, on sera à peu près à moins 200 degrés. D'accord ? Et passé ça, eh bien, on sera en température ambiante de l'autre côté.
Donc cet endroit-là, on va s'approcher un peu, on va se pencher.
Donc si on regarde un peu vers le bas, vous voyez un peu ce dont on a parlé. C'est-à-dire que le dernier ensemble de bobines, c'est 6 bobines horizontales qui sont là pour contrôler en fait la forme du plasma. Et dans la séquence d'assemblage, la toute première, on ne la voit plus, elle est sous la colonne centrale, elle est petite. La première moyenne basse, elle est là, vous la voyez. Et puis, une fois qu'on aura fini d'assembler le tore lui-même, eh bien, on aura 2 grandes bobines horizontales et puis de nouveau une moyenne et de nouveau une petite. Donc les 2 moyennes et les 2 grandes sont les seuls éléments qui sont tellement grands qu'on ne peut pas les transporter. Donc ceux-là auront été, c'est quasiment fini maintenant, c'est fini, ils ont été assemblés sur place.
Une question d'un tout autre ordre, mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser déjà à une dimension un peu plus civilisationnelle. Enfin, on est sur un chantier qui mobilise le monde entier et qui a des dimensions, on va dire, un peu colossales, pharaoniques. Alors, vous, est-ce que vous pensez, justement, en tant que directeur de ce projet, à cette dimension civilisationnelle ?
Oui, sociétale, on va dire. On dit ça sociétale. Alors, oui, parce que même si ça vous paraît énorme,
C'est pas si énorme que ça. Honnêtement, on est en train de faire un morceau de soleil dans un bâtiment de 10 étages de haut. Si vous faites une petite règle 3, c'est la miniaturisation la plus importante et de très très loin que l'humanité aura réalisée si elle y arrive. Ou alors, si nos amis de la fusion universelle arrivent encore plus sur des échelles encore plus petites, tant mieux. Donc c'est un défi, mais à la fin, c'est quelque chose... La bonne nouvelle, moi je trouve, c'est que c'est tractable. Aujourd'hui, on pense pouvoir faire 500 mégawatts, et si on améliore les technologies même plus, dans des volumes qui sont excessivement raisonnables. Et c'est la bonne nouvelle. C'est pas à la taille de la Lune ou de plus gros, d'accord ? C'est à la taille de quelque chose qui est tractable par l'humanité. C'est faisable, c'est pas encore acquis. Faut qu'on le démontre.
Un projet cathédral. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage et pour cette petite anatomie d'ITER. Sébastien Lepape, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, j'ai pas eu la chance encore de visiter ITER, mais je trouve le miracle d'ITER, c'est de passer des conditions de 100 à 150 millions de degrés Celsius Kelvin à quelque chose de cryogénique pour les aimants. Et en fait, ces conditions extrêmes qui sont côte à côte à quelques dizaines de mètres, ça a un côté fascinant. Et il faut voir que c'est comme un projet qui est multinational. Enfin, il y a des parties qui viennent du Japon, des parties qui viennent de Russie, des parties qui viennent d'Amérique, qui sont construites avec des spécifications proches du millimètre, j'imagine, et qui doivent tout être assemblées et venir en même temps à Cadarache. C'est un projet d'ingénierie incroyable.
Ouais, 35 pays impliqués, il me semble. Ouais. Alain Bécoulé, hein, ITER, on rappelle bien que ITER n'a pas de vocation à produire d'électricité, hein, c'est juste une pure expérience scientifique. Les premières expériences de fusion sont prévues pour 2035 ?
Oui, alors effectivement, il est important de rappeler que c'est un réacteur de démonstration, c'est-à-dire qu'on va démontrer qu'on sait le faire à ces niveaux de puissance et sur des durées extrêmement longues, mais on ne va pas utiliser la chaleur pour faire de la vapeur d'eau et faire de l'électricité, ce n'est pas nécessaire, ça n'est pas dans la démonstration. Alors effectivement, le calendrier d'ITER nous amène aujourd'hui, ou au jour au temps actuel, nous amène à penser que vers le milieu des années 2030, on devrait pouvoir atteindre ces conditions donc de 500 MW de fusion et d'amplification d'un facteur 10 de l'énergie injectée. C'est une projection du projet. On sait qu'on a des problèmes aujourd'hui de construction de certains des éléments, en particulier des fameux écrans thermiques aussi d'un des secteurs d'enceinte. Donc on est dans des phases de réparation, de correction d'agenda. On essaye aujourd'hui de tout faire pour tenir ce calendrier, en particulier pour tenir le fait que dans le milieu des années 2030, on devrait quand même atteindre ces conditions, cette démonstration de faisabilité.
Oui, Alain Bécoulé, finalement, les questions que ITER pose, c'est quelles sont les voies, les défis qui s'ouvrent et quelles sont les voies à fermer ?
Voilà, tout à fait. Alors, il faut aussi comprendre que ITER a aujourd'hui une vocation non seulement à évidemment faire un plasma qui amplifie d'un facteur 10, mais en fait, et le reportage, je pense, l'a montré ou a essayé de le démontrer, ITER, c'est une installation nucléaire de base à partir de la fusion, c'est-à-dire c'est un réacteur prototype complet avec ses systèmes de refroidissement, avec la gestion du tritium, avec même les programmes de démantèlement à la fin, de retour au vert, de gestion des déchets. Donc ITER a vocation vraiment à passer par tous les éléments du système réacteur de fusion pour dire on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça, ça on sait pas encore faire, ça il faut qu'on corrige, etc. Donc il a une vocation systémique en plus d'une vocation de démonstration scientifique.
Alors ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce projet, hein, ITER, il vient en succession du Tokamak Jet en Angleterre. Pourquoi ? C'est parce que cette machine était trop petite ? Comme vous le disiez dans le reportage, le volume compte ?
Oui, alors Jet est aujourd'hui la machine, c'est une machine européenne qui est sur le sol britannique. Pour des raisons historiques, vous imaginez bien que ça peut nous poser quelques soucis, mais peu importe. Elle est simplement, Jet est aujourd'hui le résultat de toutes ces recherches de forme, de taille, etc. Et Jet a démontré à la fois à la fin des années 90 et récemment l'année dernière, à la fin de l'année 2021, que elle tangente, elle touche l'amplification quantification d'un facteur de 1. Elle touche en fait, en gros, une vingtaine de mégawatts générés pour une vingtaine de mégawatts injectés ou des choses dans ces eaux-là. C'est-à-dire que, et elle ne peut pas aller plus loin parce que la taille compte et l'intensité du champ magnétique versus la taille compte dans la fusion. Donc JET est au maximum de ce qu'elle peut démontrer. Elle nous sert à faire la physique, elle nous sert à prototyper un certain nombre de composants, en particulier les composants qui font face au plasma, etc. Mais si on veut faire un pas vers l'amplification des réactions de fusion, il faut aller vers ITER.
Sébastien Le Pape.
Oui, donc c'est un peu comme toutes ces installations. On a besoin d'aller vers de plus larges installations pour obtenir des amplifications plus grandes. Donc ITER devrait démontrer ces amplifications de 10 à terme. Il en a été pareil des lasers où graduellement ils sont devenus de plus en plus énergétiques pour arriver à générer des milieux denses, suffisamment denses et chauds pour arriver à l'amplification. Donc c'est un peu, pas exactement le même principe, mais c'est un peu le même principe où oui, on est à 2 mégajoules, un jour il y a un laser à 10 mégajoules, les gens y pensent déjà pour arriver à des amplifications telles que celles qu'il faut pour l'énergie, pour faire de l'énergie pour la grille.
Et justement, on va parler de cette autre voie de recherche qui est en cours, hein, la fusion inertielle, on en parle après la pause musicale.
Is tempo all right for you?
For rocking or singing?
Both.
Oh, let's find out.
All right.
Because you gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, 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 won't you do, I love you. You were my sweet, complete desire. Sunny, 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 once or two, I love you. Yes, I love you.
Sunny de Ella Fitzgerald et Tom Jones, car nous parlons de fusion nucléaire à 16h38 sur France Culture, ou comment reproduire l'énergie du soleil dans un réacteur. On en parle avec Sébastien Le Pape, directeur du laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses de l'école polytechnique à Palaiseau, qui a participé aux expériences du NIF de 2009 à 2019. Et on en parle avec Alain Bécoulé, physicien et spécialiste de la fusion nucléaire, responsable du domaine ingénierie du projet ITER depuis 2020. On a vu, hein, dans une première partie d'émission à la fusion nucléaire magnétique avec ITER, il existe une deuxième voie à l'étude, celle de la fusion inertielle. Sébastien Le Pape, en quoi cela consiste? On l'a un peu évoqué, mais là on peut y aller.
D'accord. Donc au départ on a un laser, un gros laser, un laser qui produit jusqu'à 2 mégajoules d'énergie dans des laps de temps qui durent entre 10 milliardièmes et 20 milliardièmes de secondes, donc des nanosecondes, 10-9. Ce laser, est utilisé pour créer un four à rayons X. Donc, il va irradier un cylindre en or ou en uranium appauvri. Ce cylindre, une fois irradié, va générer des rayons X. Ces rayons X ont pour but de comprimer une capsule qui est soit en plastique, soit en diamant, qui fait à peu près 2 mm de diamètre, qui contient le deutérium et le tritium qui va fusionner. Et c'est un peu plus compliqué que ça. À l'intérieur de cette capsule, il y a une couche de glace de deutérium-tritium, puis du gaz de deutérium-tritium à des températures cryogéniques, de l'ordre de près de 20 Kelvin, donc très froid. Okay, donc on va passer de 20 Kelvin à 100 millions de degrés en 20 milliardièmes de seconde. D'accord ? C'est pour se donner une idée. Donc les rayons X vont créer un effet fusée. Donc c'est comme une fusée. Une fusée, ça monte dans le ciel parce que ça éjecte des gaz et il y a conservation du mouvement et les gaz partent d'un côté, la fusée part de l'autre côté. Là, les rayons X ablatent la matière et compriment cette sphère de diamant ou de plastique à des vitesses assez extraordinaires. Donc Ariane, quand ça décolle, c'est 17 km par seconde. Et là, ça implose à entre 350 et 400 km par seconde. Donc tout ça, ça dure 10 milliardièmes de seconde, 10-15 milliardièmes de seconde. Donc, on a une implosion d'une sphère avec une énergie cinétique énorme parce qu'on a une vitesse qui est énorme. Et l'énergie cinétique, c'est la vitesse au carré. Et lorsque cette sphère s'arrête sur elle-même, il y a transformation de l'énergie cinétique en énergie thermique, chaleur. C'est comme ça qu'on atteint les 30 millions de degrés dont on a besoin pour initier les températures de fusion. Et là, donc, on a compression de cette sphère en diamant, aujourd'hui en diamant, et là, on a les réactions de fusion qui se créent à l'intérieur. Tout le jeu, c'est de... Vous partez d'une sphère et vous voulez comprimer cette sphère la plus sphériquement possible. C'est comme si vous appuyez sur un ballon que vous avez gonflé, mais avec juste deux mains. Bah, si vous appuyez juste avec deux mains sur un ballon, il ne va pas se comprimer sphériquement, il va partir dans tous les sens parce que n'appliquez pas une pression homogène. Là, un des grands enjeux, c'est d'appuyer sur ce ballon de manière homogène avec vos lasers ou vos rayons X. Donc ça, c'est un des grands enjeux. L'autre enjeu, le grand enjeu de la fusion, c'est ce qu'on appelle les instabilités hydrodynamiques. Vous mettez de l'huile sur de l'eau et vous avez la gravité. Si la surface entre l'huile et l'eau n'est pas exactement plane, vous avez des espèces de champignons d'huile qui vont se propager dans l'eau. C'est ce qu'on appelle des instabilités hydrodynamiques. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça va refroidir le point chaud que vous essayez de créer. C'est comme mettre du glaçon, des glaçons dans du café. Ben, évidemment, le café, il est moins chaud après. Et donc c'est l'image, quoi. Vous injectez des glaçons dans quelque chose que vous voulez faire chaud, donc ça chauffe pas parce que vous le refroidissez avec autre chose. Donc voilà. Et donc, en comprimant très vite à des densités faramineuses, donc voilà, l'image, c'est comme dans un moteur à essence. Quand le piston va appuyer sur l'essence, il va comprimer l'essence, on arrive à des grandes densités, grandes températures, et on crée l'étincelle qui génère la fusion. C'est ce qu'on essaye de faire.
Alain Bécoulet, pour compléter également cette description de Sébastien Lepape.
Oui, donc on est effectivement sur des modes d'atteinte de ces conditions extrêmes, vraiment très différentes. Là, Sébastien a très très bien expliqué. L'idée, c'est de reproduire, de mimer cette espèce d'effondrement sur soi-même qui amène les atomes et donc les noyaux ensuite, les uns près des autres, à des vitesses extrêmes. La difficulté, elle va être dans la réalisation de ça. Et si on se projette sur comment récupérer de l'énergie à partir de ce genre de processus, il faut imaginer pouvoir le répéter ensuite, puisqu'on a une micro-implosion avec génération de quelques mégajoules d'énergie, et puis eh bien, il faut recommencer, parce que il faut ensuite pouvoir entretenir ça plusieurs fois par seconde, sur des temps longs, etc. Donc le défi est un défi scientifique au départ, comment comprimer une bille de façon totalement isotrope dans des conditions aussi extrêmes, et puis ensuite il devient, on va dire, technologique, comment pouvoir ensuite répéter ça de façon à ce que, vu en moyenne de l'extérieur, eh bien, on a une création de, cette fois-ci, plus d'énergie mais de puissance, c'est-à-dire d'énergie par unité de temps sur des temps très longs.
Alors, ce schéma de fusion inertielle, c'est ce schéma qui est en œuvre au NIF, aux États-Unis, le plus grand système de laser au monde. C'est grand comme trois terrains de foot, une installation de 192 lasers. En décembre, donc, le sol d'ignition a été franchi. Il y a eu davantage d'énergie produite que d'énergie injectée. Sébastien Le Pape, pourquoi est-ce une vraie avancée pour la recherche?
Déjà, ça veut dire que ça marche.
Ça veut dire
que la physique de l'ignition fonctionne. Moi, quand j'étais à Livermore, il y avait quand même pas mal de gens qui doutaient même qu'on arriverait à l'ignition. Donc, de base, la bonne nouvelle, c'est que la physique fonctionne à peu près comme on avait prévu qu'elle fonctionne il y a 10-15 ans. Donc, c'est un pas majeur.
Et c'est une preuve de concept pour la fusion inertielle. Ça redonne aussi de la crédibilité à cette voie-là.
Oui, c'est vrai. Il y a eu des doutes parce que probablement ça avait été vendu comme un peu atteignable rapidement, alors que ça a été plus compliqué à atteindre que ce qu'on pensait. Il faut bien comprendre que toutes ces expériences qui ont été faites sur le NIF, elles ont été designées sur des lasers qui étaient beaucoup plus petits. Soit des lasers comme nous, on a à l'école polytechnique, mais qui font 2 kilojoules, 1 kilojoule. Soit sur des lasers qui font 30 kilojoules aux États-Unis. Donc il y a un rapport d'échelle entre toutes les expériences qui avaient été faites dans le monde pendant 30 ans et ce qu'on était capable de faire sur le NIF, qui était à 2 mégajoules. Donc évidemment que tout ce qu'on avait mesuré, c'était vrai, mais vrai à 10-15%. Et pour faire la fusion, il faut être meilleur que ça. Et c'est ce qu'on a appris en arrivant sur le NIF, c'est que ce qu'on avait l'habitude de mesurer, nous, physiciens des plasmas, avec une barre d'erreur de 15-20%, c'était pas assez bon pour arriver à l'ignition en 3 ans, et qu'il nous avait fallu 13. C'est une des leçons. Mais en revanche, les modèles qu'on avait n'étaient pas si faux. Je veux dire, on espérait le faire avec 1 mégajoule, on y est arrivé avec 2 mégajoules, il y a un facteur 2. Mais néanmoins, la physique était suffisamment comprise pour réduire le paramètre d'espace en termes d'énergie et de cible à quelque chose qui était explorable dans un laps de temps de 10 à 15 ans.
Alain Bécoulet, sur ces résultats obtenus par le NIF?
Je vais rebondir tout de suite. C'est vrai. Je pense que le mot commun entre fusion inertielle et fusion magnétique, c'est la perfection. Ces recherches-là exigent une perfection dans la fusion magnétique, une perfection des alignements des champs magnétiques, une perfection du vide, etc. Dans la fusion inertielle, une perfection de l'isotropie, de compression, etc. Et c'est ça qui rend le défi à la fois difficile mais passionnant. C'est une course à la perfection.
Alors, il y a eu plusieurs voix aussi qui ont relativisé ces résultats obtenus, puis de dire aussi c'est une étape, l'atteinte du seuil d'ignition, c'est une étape nécessaire, mais une étape pas suffisante. Quel est votre point de vue là-dessus, Alain Bécoulet?
Oui, clairement. Non, on n'est pas en train de vendre un réacteur à fusion à partir des résultats du NIF. Mais comme ça a été expliqué, dans les deux cas, dans les deux recherches, dans les deux filières, on est exactement dans cette même dynamique. Ce sont des étapes qu'on passe. C'est un petit peu comme si vous voulez aller faire un vol habité sur Mars. Il y a eu un premier vol non habité sur... Déjà, des satellites qui ont tourné autour de la Terre, puis un premier vol non habité sur la Lune, puis un vol habité, puis un vol non habité sur Mars, etc. etc. C'est exactement la même chose. On fait d'étape en étape, on passe des go-no-go d'une certaine façon. Si on ne sait pas aller sur la Lune non habitée, on n'ira pas sur Mars habité, etc., etc. Ça explique pourquoi ces recherches sont longues, parce que ce sont des recherches qui sont extrêmement délicates, qui demandent la perfection sur des dimensions, sur des objets technologiques qui sont extrêmement sophistiqués. Mais le jeu en vaut très largement la chandelle.
Sébastien Le Pape.
Alors, il faut bien comprendre que ni le NIF, ni le LMJ, qui est l'équivalent français du NIF à Bordeaux, opéré par le CEA, n'ont été conçus pour faire la fusion pour l'énergie. Ces deux machines sont conçues pour, à la fin des essais nucléaires, il a fallu aux physiciens du CEA, Direction des Applications Militaires, des outils pour aller tester les codes qu'ils utilisent pour leurs applications. Donc le but de ces lasers n'était était de faire la fusion, mais pas la fusion pour l'énergie. C'est pour ça que les taux de répétition de ces lasers ne fonctionnent en aucun cas pour faire l'énergie. Le NIF tire une fois par jour.
Il faudrait tirer plus d'une fois par jour.
Il faudrait tirer, on imagine, pour des usines à fusion utilisant des lasers, tirer 10 à 15 fois par seconde. Oui. Donc il y a des sauts technologiques considérables. Mais ces lasers, c'est de la technologie des années 80-90 pour une application bien précise. Alors, en revanche, comme ça vient d'être très bien dit, c'est un go parce qu'on comprend la physique. Mais l'application de ces lasers, c'est pas l'énergie au jour d'aujourd'hui.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
. 16h50 sur France Culture, avec Sébastien Lepape et Alain Bécoulet, nous parlons de fusion nucléaire, nous avons parlé des résultats du NIF, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que, Alain Bécoulet, est-ce qu'on peut dire que la fusion nucléaire, c'est une filière d'avenir?
Oui, alors moi je suis très positif et très affirmatif sur ça. Donc c'est une course, c'est un défi, c'est une recherche extrêmement complexe, c'est un défi technologique qui est posé à l'humanité. Mais comme je disais tout à l'heure, d'une part le jeu en vaut la chandelle, donc il faut persévérer. Et aujourd'hui, en tout cas en fusion magnétique, mais je pense qu'en fusion inertielle, même si d'une certaine façon le chemin est encore plus long, on ne voit pas aujourd'hui de ce qu'on appelle de showstopper, on ne voit pas d'impossibilité d'y arriver. Par contre, le chemin est long, difficile, complexe, il demande de l'intelligence, de l'effort, etc. On est aujourd'hui dans une, vous l'avez rappelé tout au début de cette émission, on est aujourd'hui dans une transition importante pour l'humanité, dans un mouvement absolument fondamental où si on veut pouvoir continuer à progresser, continuer à exister, continuer à développer notre humanité, il faut changer de modèle énergétique, il faut changer d'approche environnementale. Ces solutions-là ne sont peut-être pas la solution, mais clairement ce sont des éléments de réponse fondamentaux, majeurs dans ce type d'équation du futur, donc il faut avancer, et moi je suis très confiant, oui, l'effort existe, mais s'il perdure, on y arrivera.
Sébastien Lepape, il y a cette sacralisation de la fusion nucléaire comme une source d'énergie décarbonée, tout ça c'est quand même peut-être un peu à nuancer, car les avancées scientifiques sont encore relativement lentes. Dans ce contexte de crise énergétique et de crise environnementale.
Ah oui, on ne va pas résoudre la crise énergétique dans les 10-20 prochaines années avec la fusion. Ça, je pense que tout le monde en est conscient et c'est pas notre but à nous aujourd'hui. Je crois que les échelles de temps des startups qui ne sont pas les échelles de temps du monde académique sont à 2050 avec un laser à fusion qui serait possiblement connecté à la grille, ce qui paraît un peu optimiste à tout le monde, mais voilà, ça donne une idée de ce à quoi on veut arriver. Et effectivement, aujourd'hui, ça devient un défi d'ingénierie alors que c'était un défi de physique. Alors, en revanche, le défi d'ingénierie, il est majeur, mais les ingénieurs savent résoudre des défis, donc je suis moyennement inquiet. Donc on va y arriver, c'est une question de moyens, c'est une question de moyens, beaucoup, et une question de volonté. Et je pense que mener les deux fronts en même temps, fusion par confinement magnétique et fusion par confinement inertiel, en plus c'est complètement synergétique. Il y a des problèmes de la fusion par confinement magnétique qui sont les mêmes que les nôtres. Donc travailler ensemble pour y arriver, ça me paraît quelque chose. Enfin, c'est ce à quoi il faut arriver.
Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que quels que soient les progrès réalisés, la fusion nucléaire arrivera trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Il est l'heure de retrouver Étienne Klein et son indispensable chronique, le pourquoi du comment.
Deux choses identiques sont-elles indiscernables ? Relisons l'oreille cassée, le célèbre album de Tintin. Un fétiche Arumbaya est volé dans le musée ethnographique de Bruxelles. Le lendemain, ce fétiche réapparaît à sa place habituelle, mais il est facile de voir que c'est une contrefaçon grossière. L'oreille droite du fétiche est intacte, alors que celle de l'original était brisée. Où donc se trouve le véritable fétiche ? Tintin entreprend des recherches en Amérique du Sud, sans résultat. De retour en Europe, il constate que pendant son voyage, de nombreux faux ont proliféré. Ils découvrent même un atelier regorgeant de fétiches à l'oreille cassée. Mais l'original demeure introuvable. Tout se passe comme si son identité avait été submergée et même anéantie par ses doubles innombrables. Dans son livre intitulé « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », publié en 1935, Walter Benjamin s'était lui aussi déjà interrogé à sa façon sur les implications de la démultiplication des œuvres, rendues possibles par l'imprimerie, la gravure ou la photographie. Selon lui, cette reproduction devenue de masse altère jusqu'au statut des œuvres d'art. Elle leur fait perdre leur aura qu'il définit comme le frisson qui nous saisit devant le caractère unique d'une œuvre contenant encore le geste de son créateur. Fin de citation. A priori, c'est le sort de toute réalité que de ne pouvoir se dupliquer à l'identique sans devenir aussitôt autre. Mais est-ce vraiment vrai? Est-il toujours possible de distinguer une chose de sa copie apparemment parfaite? La physique répond précisément à ces questions, du moins pour ce qui la concerne. Deux objets macroscopiques, dit-elle, ne sont jamais parfaitement identiques. Entre deux boules de billard, par exemple, même de couleur identique, il y a toujours quelques différences, par exemple une rayure ou une trace de choc. Autrement dit, elles peuvent toujours être distinguées l'une de l'autre. Leur identification respective peut d'ailleurs être rendue plus manifeste en les marquant au stylo feutre par un signe distinctif, une croix, un point ou un nombre. Mais ce que je viens de dire là n'est plus vrai si l'on a affaire à des objets microscopiques, régis quant à eux par la physique quantique, atomes, noyaux d'atomes, particules élémentaires ou composites. Si, dans un atome, on remplace un électron par un autre électron, aucune des propriétés de cet atome n'en sera modifiée. Rien dans la nature d'un électron ne permet de le différencier d'un autre électron. Par ailleurs, il est impossible de marquer un électron, par exemple en le peignant d'une certaine couleur, ou en collant un numéro sur la peau que d'ailleurs il n'a pas. Dûment formalisé, cette indiscernabilité des particules conduit à les répartir en deux catégories. Il y a d'une part les fermions, du nom du physicien italien Fermi. Il y a d'autre part les bosons, du nom du physicien indien Bose. Il n'y a pas d'entre-deux. Toute particule est soit un boson, soit un fermion. Par exemple, les électrons, les protons, les neutrons, les quarks ou les neutrinos sont des fermions. Les photons, quant à eux, sont des bosons. Les fermions obéissent au principe d'exclusion de Pauli. Ce principe énonce que deux fermions identiques ne peuvent pas être dans le même état quantique. Ils diffèrent donc toujours par au moins une propriété physique, leur énergie, leur vitesse ou la direction de leur spin. Quant aux bosons, ils sont débarrassés de cette contrainte. Plusieurs bosons identiques peuvent se trouver à plusieurs, exactement dans le même état physique, sans pour autant former une seule et même entité. C'est notamment ce qui se passe à très basse température pour l'hélium-4 superfluide, dans lequel tous les atomes se condensent dans le même état physique, qui est celui pour lequel l'énergie est minimale. Les bosons mettent ainsi en défaut le principe de l'identité des indiscernables, principe essentiel de la philosophie de Leibniz, pour qui deux êtres réels ne sont jamais absolument semblables. En effet, il existe bel et bien des cas où des bosons identiques peuvent être strictement dans le même état quantique, sans qu'on ait affaire pour autant à une seule et même entité. Parler du nombre de ces particules a bien un sens, même si ces particules ne sont pas distinguables les unes des autres. Je compte sur vous pour réfléchir là-dessus avec discernement.
Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma-Agnolo, Cénile Lozen, Ève Etienne, à la réalisation Daphné Leblond, à la technique aujourd'hui Timothée Hubert. Vous pouvez nous podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.
Elle elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste.
L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque.
Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piaroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piaroux et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.